Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 3, suite 3. Bientôt même, l'été finissant, quand on descendait du train à Douville, le soleil, amorti par la brume, n'était déjà plus, dans le ciel uniformément mauve, qu'un bloc rouge. À la grande paix qui descend le soir sur ses prés drus et salins, et qui avait conseillé à beaucoup de Parisiens, peintres pour la plupart, d'aller villégiaturer à Douville, s'ajoutait une humidité qui les faisait rentrer de bonne heure dans les petits chalets. Dans plusieurs de ceux-ci, la lampe était déjà allumée. Seules quelques vaches restaient dehors à regarder la mer en meuglant, tandis que d'autres, s'intéressant plus à l'humanité, tournaient leur attention vers nos voitures. Seul un peintre, qui avait dressé son chevalet sur une mince éminence, travaillait à essayer de rendre ce grand calme, cette lumière apaisée. Peut-être les vaches allaient-elles lui servir, inconsciemment et bénévolement, de modèle, car leur air contemplatif et leur présence solitaire, quand les humains sont rentrés, contribuaient à leur manière à la puissante impression de repos que dégage le soir. Et quelques semaines plus tard, la transposition ne fut pas moins agréable quand l'automne s'avança, les jours devinrent tout à fait courts et qu'il fallut faire ce voyage dans la nuit. Si j'avais été faire un tour dans l'après-midi, il fallait rentrer s'habiller au plus tard à 5 heures, où maintenant le soleil rond et rouge était déjà descendu au milieu de la glace oblique, jadis détestée, et, comme quelque feu grégeois, incendiait la mer dans les vitres de toutes mes bibliothèques. Quelques gestes incantateurs ayant suscité, pendant que je passais mon smoking, le moi alerte et frivole qui était le mien quand j'allais avec Saint-Loup dîner à Rivebelle, et le soir où j'avais cru emmener Mademoiselle de Stermaria dîner dans l'île du Bois, je fredonnais, inconsciemment, le même air qu'alors. Et c'est seulement en m'en apercevant qu'à la chanson je reconnaissais le chanteur intermittent, lequel, en effet, ne savait que celle-là. La première fois que je l'avais chantée, je commençais d'aimer Albertine, mais je croyais que je ne la connaîtrais jamais. Plus tard, à Paris, c'était quand j'avais cessé de l'aimer, et quelques jours après l'avoir possédée pour la première fois. Maintenant, c'était en l'aimant de nouveau, et au moment d'aller dîner avec elle, au grand regret du directeur, qui croyait que je finirais par habiter la Raspelière et lâcher son hôtel, et qui assurait avoir entendu dire qu'il régnait par là des fièvres dues aux marais du Bac et à leurs eaux accroupies. J'étais heureux de cette multiplicité que je voyais ainsi à ma vie déployée sur 3 plans. Et puis, quand on redevient pour un instant un homme ancien, c'est-à-dire différent de celui qu'on est depuis longtemps, la sensibilité, n'étant plus amortie par l'habitude, reçoit des moindres chocs des impressions si vives qu'elles font pâlir tout ce qui les a précédées et auxquelles, à cause de leur intensité, nous nous attachons avec l'exaltation passagère d'un ivrogne. Il faisait déjà nuit quand nous montions dans l'omnibus ou la voiture qui allait nous mener à la gare prendre le petit chemin de fer. Et dans le hall, le premier président nous disait « Ah, vous allez à la Raspelière ! Sapristi, elle a dû touper, Madame Verdurin, de vous faire faire 1 heure de chemin de fer dans la nuit pour dîner seulement, et puis recommencer le trajet à 10 heures du soir, dans un vent de tous les diables. On voit bien qu'il faut que vous n'ayez rien à faire » ajoutait-il en se frottant les mains. Sans doute parlait-il ainsi par mécontentement de ne pas être invité. Et aussi, à cause de la satisfaction qu'ont les hommes occupés, fût-ce par le travail le plus sot, de ne pas avoir le temps de faire ce que vous faites. Certes, Il est légitime que l'homme qui rédige des rapports, aligne des chiffres, répond à des lettres d'affaires, suit les cours de la bourse, éprouve, quand il vous dit en ricanant « C'est bon pour vous qui n'avez rien à faire », un agréable sentiment de sa supériorité. Mais celle-ci s'affirmerait tout aussi dédaigneuse, davantage même, car dîner en ville, l'homme occupé le fait aussi. Si votre divertissement était d'écrire Hamlet ou seulement de le lire, en quoi les hommes occupés manquent de réflexion? Car la culture désintéressée, qui leur paraît comique passe-temps d'oisif quand ils la surprennent au moment qu'on la pratique, ils devraient songer que c'est la même qui, dans leur propre métier, met hors de pair des hommes qui ne sont peut-être pas meilleurs magistrats ou administrateurs qu'eux, mais devant l'avancement rapide desquels ils s'inclinent en disant « Il paraît que c'est un grand lettré, un individu tout à fait distingué. » Mais surtout, le premier président ne se rendait pas compte que ce qui me plaisait dans ses dîners à la Raspoulière, c'est que, comme il le disait avec raison, quoique par critique, il représentait un vrai voyage, un voyage dont le charme me paraissait d'autant plus vif qu'il n'était pas son but à lui-même, qu'on y cherchait nullement le plaisir, celui-ci étant affecté à la réunion vers laquelle on se rendait, et qui ne laissait pas d'être fort modifié par toute l'atmosphère qui l'entourait. Il faisait déjà nuit maintenant quand j'échangeais la chaleur de l'hôtel devenu mon foyer, pour le wagon où nous montions avec Albertine et où le reflet de la lanterne sur la vitre apprenait, à certains arrêts du petit train poussif, qu'on était arrivé à une gare. Pour ne pas risquer que Cottard ne nous aperçût pas, et n'ayant pas entendu crier la station, j'ouvrais la portière, mais ce qui se précipitait dans le wagon, ce n'étaient pas les fidèles, mais le vent, la pluie, le froid. Dans l'obscurité, je distinguais les champs, j'entendais la mer, nous étions en rase campagne. Albertine, avant que nous rejoignions le petit noyau, se regardait dans un petit miroir, extrait d'un nécessaire en or qu'elle emportait avec elle. En effet, les premières fois, Madame Verdurin l'ayant fait monter dans son cabinet de toilette pour qu'elle s'arrangeât avant le dîner, j'avais, au sein du calme profond où je vivais depuis quelque temps, éprouvé un petit mouvement d'inquiétude et de jalousie à être obligé de laisser Albertine au pied de l'escalier, et je m'étais senti si anxieux pendant que j'étais seul au salon, au milieu du petit clan, et me demandais ce que mon ami faisait en haut, que j'avais le lendemain, par dépêche, après avoir demandé des indications à M. de Charlus sur ce qui se faisait de plus élégant, commandé chez Cartier un nécessaire qui était la joie d'Albertine et aussi la mienne. Il était pour moi un gage de calme et aussi de la sollicitude de mon amie, car elle avait certainement deviné que je n'aimais pas qu'elle restât sans moi chez Madame Verdurin et s'arrangeait à faire en wagon toute la toilette préalable au dîner. Au nombre des habitués de Madame Verdurin, et le plus fidèle de tous, comptait maintenant, depuis plusieurs mois, Monsieur de Charlus. Régulièrement, trois fois par semaine, les voyageurs qui stationnaient dans les salles d'attente ou sur le quai de Doncières Ouest voyaient passer ce gros homme aux cheveux gris, aux moustaches noires, les lèvres rougies d'un fard, qui se remarque moins à la fin de la saison que l'été, où le grand jour le rendait plus cru et la chaleur à demi liquide. Tout en se dirigeant vers le petit chemin de fer, il ne pouvait s'empêcher, seulement par habitude de connaisseur, puisque maintenant il avait un sentiment qui le rendait chaste, ou du moins la plupart du temps fidèle, de jeter sur les hommes de peine, les militaires, les jeunes gens en costume de tennis, un regard furtif, à la fois inquisitorial et timoré, après lequel il baissait aussitôt ses paupières, sur ses yeux presque clos, avec l'onction d'un ecclésiastique en train de dire son chapelet. avec la réserve d'une épouse vouée à son unique amour ou d'une jeune fille bien élevée. Les fidèles étaient d'autant plus persuadés qu'ils ne les avaient pas vus qu'ils montaient dans un compartiment autre que le leur, comme faisait souvent aussi la princesse Chcherbatov. Un homme qui ne sait point si l'on sera content ou non d'être vu avec lui, et qui vous laisse la faculté de venir le trouver si vous en avez l'envie. Celle-ci n'avait pas été éprouvée, les toutes premières fois, par le docteur, qui avait voulu que nous le laissions seul dans son compartiment. Portant beau son caractère hésitant depuis qu'il avait une grande situation médicale, c'est en souriant, en se renversant en arrière, en regardant Ski par-dessus le lorgnon, qu'il dit, par malice ou pour surprendre de biais l'opinion des camarades, « Vous comprenez, si j'étais seul, garçon, mais à cause de ma femme, je me demande si je peux le laisser voyager avec nous après ce que vous m'avez dit, » chuchota le docteur. « Qu'est-ce que tu dis ? » demanda Madame Cottard. « Rien, cela ne te regarde pas, ce n'est pas pour les femmes, » répondit en clignant de l'œil le docteur, avec une majestueuse satisfaction de lui-même qui tenait le milieu entre l'air pince sans rire qu'il gardait devant ses élèves et ses malades et l'inquiétude qui accompagnait jadis ses traits d'esprit chez les Verdurin. Et il continua à parler tout bas. Madame Cottard ne distingua que les mots de la confrérie et « tapette ». Et comme dans le langage du docteur, le premier désignait la race juive et le second les langues bien pendues, Madame Cottard conclut que M. de Charlus devait être un Israélite bavard. Elle ne comprit pas qu'on tint le baron à l'écart à cause de cela, trouva de son devoir de doyenne du clan d'exiger qu'on ne le laissât pas seul. Et nous nous acheminâmes tous vers le compartiment de M. de Charlus, guidés par Cottard, toujours perplexe. Du coin où il lisait un volume de Balzac, M. de Charlus perçut cette hésitation. Il n'avait pourtant pas levé les yeux. Mais comme les sourds-muets reconnaissent à un courant d'air, insensible pour les autres, que quelqu'un arrive derrière eux, il avait, pour être averti de la froideur qu'on avait à son égard, une véritable hyperacuité sensorielle. Celle-ci, comme elle a coutume de faire dans tous les domaines, avait engendré chez M. de Charlus des souffrances imaginaires, comme ces névropathes qui, sentant une légère fraîcheur, induisent qu'il doit y avoir une fenêtre ouverte à l'étage au-dessus, entrent en fureur et commencent à éternuer. M. de Charlus, si une personne avait devant lui montré un air préoccupé, concluait qu'on avait répété à cette personne un propos qu'il avait tenu sur elle. Mais il n'y avait même pas besoin qu'on eût l'air distrait, ou l'air sombre, ou l'air rieur. Il les inventait. En revanche, la cordialité lui masquait aisément les médisances qu'il ne connaissait pas. Ayant deviné la première fois l'hésitation de Cottard, si, au grand étonnement des fidèles qui ne se croyaient pas aperçus encore par le liseur aux yeux baissés, il leur tendit la main quand ils furent à distance convenable, il se contenta d'une inclinaison de tout le corps, aussitôt vivement redressé, pour Cottard, sans prendre avec sa main gantée de Suède la main que le docteur lui avait tendue. « Nous avons tenu absolument à faire route avec vous, monsieur, et à ne pas vous laisser comme cela, seul dans votre petit coin. C'est un grand plaisir pour nous, » dit avec bonté Madame Cottard au baron. « Je suis très honoré, » récita le baron en s'inclinant d'un air froid. « J'ai été très heureuse d'apprendre que vous aviez définitivement choisi ce pays pour y fixer vos tabernes. » Elle allait dire tabernacle, mais ce mot lui sembla hébraïque et désobligeant pour un juif qui pourrait y voir une allusion. Aussi se reprit-elle pour choisir une autre des expressions qui lui étaient familières, c'est-à-dire une expression solennelle. « Pour y fixer, je voulais dire, vos pénates. » Il est vrai que ces divinités n'appartiennent pas à la religion chrétienne non plus, mais à une qui est morte depuis si longtemps qu'elle n'a plus d'adeptes qu'on puisse craindre de froisser. Nous, malheureusement, avec la rentrée des classes, le service d'hôpital du docteur, nous ne pouvons jamais bien longtemps élire domicile dans un même endroit. » Et lui montrant un carton, « Oyez d'ailleurs, comme nous autres femmes, nous sommes moins heureuses que le sexe fort. Pour aller aussi près que chez nos amis Verdurin, nous sommes obligés d'emporter avec nous toute une gamme d'impédimenta. » Moi, je regardais pendant ce temps-là le volume de Balzac du Baron. Ce n'était pas un exemplaire broché, acheté au hasard, comme le volume de Bergotte qu'il m'avait prêté la première fois. C'était un livre de sa bibliothèque, et comme tel, portant la devise « Je suis au baron de Charlus », à laquelle faisait place parfois, pour montrer le goût studieux des Guermantes, « In proelis non semper », et une autre encore, « Non sine labore ». Mais nous les verrons bientôt remplacés par d'autres, pour tâcher de plaire à Morel. Madame Cottard, au bout d'un instant, prit un sujet qu'elle trouvait plus personnel au baron. « Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, monsieur, » lui dit-elle au bout d'un instant, « mais je suis très large d'idées, et selon moi, pourvu qu'on les pratique sincèrement, toutes les religions sont bonnes. Je ne suis pas comme les gens que la vue d'un protestant rend hydrophobe. On m'a appris que la mienne était la vraie, » répondit monsieur de Charlus. C'est un fanatique, pensa madame Cottard. Swann, sauf sur la fin, était plus tolérant. Il est vrai qu'il était converti. Or, tout au contraire, le baron était non seulement chrétien, comme on le sait, mais pieux à la façon du Moyen-Âge. Pour lui, comme pour les sculpteurs du XIIIe siècle, l'Église chrétienne était, au sens vivant du mot, peuplée d'une foule d'êtres, crus parfaitement réels. Prophètes, apôtres, anges, saints personnages de toutes sortes, entourant le Verbe incarné, sa mère et son époux, le Père éternel, tous les martyrs et docteurs. Tel que leur peuple en plein relief, chacun d'eux se presse au porche ou remplit le vaisseau des cathédrales. Entre tous, M. de Charlus avait choisi comme patron intercesseur les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, avec lesquels il avait de fréquents entretiens, pour qu'ils communiquassent ses prières au Père éternel, devant le trône de qui ils se tiennent. Aussi, l'erreur de Madame Cottard m'amusa-t-elle beaucoup. Pour quitter le terrain religieux, disons que le docteur, venu à Paris avec le maigre bagage de conseils d'une mère paysanne, puis absorbé par les études, presque purement matérielles, auxquelles ceux qui veulent pousser loin leur carrière médicale sont obligés de se consacrer pendant un grand nombre d'années, ne s'était jamais cultivé. Il avait acquis plus d'autorité, mais non pas d'expérience. Il prit à la lettre ce mot d'honorer, en fut à la fois satisfait, parce qu'il était vaniteux, et affligé, parce qu'il était bon garçon. « Ce pauvre de Charlus, » dit-il le soir à sa femme, « il m'a fait de la peine quand il m'a dit qu'il était honoré de voyager avec nous. On sent, le pauvre diable, qu'il n'a pas de relation, qu'il s'humilie. » Mais bientôt, sans avoir besoin d'être guidé par la charitable Madame Cottard, les fidèles avaient réussi à dominer la gêne qu'ils avaient tous plus ou moins éprouvée, au début, à se trouver à côté de M. de Charlus. Sans doute en sa présence, il gardait sans cesse à l'esprit le souvenir des révélations de Ski et l'idée de l'étrangeté sexuelle qui était incluse en leur compagnon de voyage. Mais cette étrangeté même exerçait sur eux une espèce d'attrait. Elle donnait pour eux à la conversation du baron, d'ailleurs remarquable, mais en des parties qu'ils ne pouvaient guère apprécier, une saveur qui faisait paraître à côté la conversation des plus intéressantes, de Brichot lui-même, comme un peu fade. Dès le début d'ailleurs, on s'était plus à reconnaître qu'il était intelligent. « Le génie peut être voisin de la folie, » énonçait le docteur. Et si la princesse, avide de s'instruire, insistait, il n'en disait pas plus, cet axiome étant tout ce qu'il savait sur le génie et ne lui paraissant pas d'ailleurs aussi démontré que tout ce qui a trait à la fièvre typhoïde et à l'arthritisme. Et comme il était devenu superbe et restait mal élevé, « Pas de question, princesse, ne m'interrogez pas. Je suis au bord de la mer pour me reposer. D'ailleurs, vous ne me comprendriez pas, vous ne savez pas la médecine. » Et la princesse se taisait en s'excusant, trouvant Cottard un homme charmant et comprenant que les célébrités ne sont pas toujours abordables. À cette première période, on avait donc fini par trouver M. de Charlus intelligent malgré son vice, ou ce que l'on nomme généralement ainsi. Maintenant, c'était, sans s'en rendre compte, à cause de ce vice qu'on le trouvait plus intelligent que les autres. Les maximes les plus simples que, adroitement provoquées par l'universitaire ou le sculpteur, M. de Charlus énonçait sur l'amour, la jalousie, la beauté, à cause de l'expérience singulière, secrète, raffinée et monstrueuse où il les avait puisées, prenaient pour les fidèles ce charme du dépaysement qu'une psychologie, analogue à celle que nous a offerte de tout temps notre littérature dramatique, revêt dans une pièce russe ou japonaise, jouée par des artistes de là-bas. On risquait encore, quand il n'entendait pas, une mauvaise plaisanterie. « Oh !» chuchotait le sculpteur en voyant un jeune employé aux longs cils de bayadère et que M. de Charlus n'avait pu s'empêcher de dévisager. « Si le baron se met à faire de l'œil au contrôleur, nous ne sommes pas près d'arriver. Le train va aller à reculons. Regardez-moi la manière dont il le regarde. Ce n'est plus un petit chemin de fer où nous sommes. C'est un funiculeur. » Mais au fond, si M. de Charlus ne venait pas, on était presque déçu de voyager seulement entre gens comme tout le monde et de n'avoir pas auprès de soi ce personnage peinturluré, pansu, et clos, semblable à quelques boîtes de provenance exotique et suspecte, qui laisse échapper la curieuse odeur de fruits auquel l'idée de goûter seulement vous soulèverait le cœur. À ce point de vue, les fidèles de sexe masculin avaient des satisfactions plus vives dans la courte partie du trajet qu'on faisait entre Saint-Martin-du-Chêne, où montait M. de Charlus, et Doncières, station où on était rejoint par Morel. Car tant que le violoniste n'était pas là, et si les dames et Albertine, faisant bande à part pour ne pas gêner la conversation, se tenaient éloignées, M. de Charlus ne se gênait pas pour ne pas avoir l'air de fuir certains sujets et parler de ce qu'on est convenu d'appeler les mauvaises mœurs. Albertine ne pouvait gêner, car elle était toujours avec les dames, par grâce de jeune fille qui ne veut pas que sa présence restienne la liberté de la conversation. Or, je supportais aisément de ne pas la voir à côté de moi, à condition toutefois qu'elle restât dans le même wagon. Car moi, qui n'éprouvais plus de jalousie ni guère d'amour pour elle, ne pensais pas à ce qu'elle faisait les jours où je ne la voyais pas. En revanche, quand j'étais là, une simple cloison, qui eût pu à la rigueur dissimuler une trahison, m'était insupportable. Et si elle allait avec les dames dans le compartiment voisin, au bout d'un instant, ne pouvant plus tenir en place, au risque de froisser celui qui parlait, Brichot, Cottard ou Charlus, et à qui je ne pouvais expliquer la raison de ma fuite, je me levais, les plantais là, et, pour voir s'ils ne s'y faisaient rien d'anormal, passais à côté. Et jusqu'à Doncières, M. de Charlus, ne craignant pas de choquer, parlait parfois fort crûment de mœurs qu'il déclarait ne trouver pour son compte ni bonnes ni mauvaises. Il le faisait par habileté, pour montrer sa largeur d'esprit, persuadé qu'il était que les siennes n'éveillaient guère de soupçons dans l'esprit des fidèles. Il pensait bien qu'il y avait dans l'univers quelques personnes qui étaient, selon une expression qui lui devint plus tard familière, fixé sur son compte. Mais il se figurait que ces personnes n'étaient pas plus de 3 ou 4 et qu'il n'y en avait aucune sur la côte normande. Cette illusion peut étonner de la part de quelqu'un d'aussi fin, d'aussi inquiet. Même pour ceux qu'il croyait plus ou moins renseignés, il se flattait que ce ne fût que dans le vague, et avait la prétention, selon qu'il leur dirait telle ou telle chose, de mettre telle personne en dehors des suppositions d'un interlocuteur, qui, par politesse, faisait semblant d'accepter ses dires. Même se doutant de ce que je pouvais savoir ou supposer sur lui, il se figurait que cette opinion, qu'il croyait beaucoup plus ancienne de ma part qu'elle ne l'était en réalité, était toute générale et qu'il lui suffisait de nier tel ou tel détail pour être cru. Alors qu'au contraire, si la connaissance de l'ensemble précède toujours celle des détails, elle facilite infiniment l'investigation de ceux-ci. Et, ayant détruit le pouvoir d'invisibilité, ne permet plus au dissimulateur de cacher ce qui lui plaît. Certes, quand M. de Charlus, invité à un dîner par tel fidèle ou tel ami des fidèles, prenait les détours les plus compliqués pour amener, au milieu des noms de 10 personnes qu'il citait, le nom de Morel, il ne se doutait guère qu'aux raisons toujours différentes qu'il donnait, du plaisir ou de la commodité qu'il pourrait trouver ce soir-là à être invité avec lui, ses hôtes, en ayant l'air de le croire parfaitement, en substituaient une seule, toujours la même, et qu'il croyait ignorer d'eux, à savoir qu'il l'aimait. De même, Madame Verdurin, semblant toujours avoir l'air d'admettre entièrement les motifs mi-artistique, mi-humanitaire, que M. de Charlus lui donnait de l'intérêt qu'il portait à Morel, ne cessait de remercier avec émotion le baron des bontés touchantes, disait-elle, qu'il avait pour le violoniste. Or, quel étonnement aurait eu M. de Charlus si, un jour que Morel et lui étaient en retard et n'étaient pas venus par le chemin de fer, il avait entendu la patronne dire « Nous n'attendons plus que ces demoiselles !» Le baron eût été d'autant plus stupéfait que, ne bougeant guère de la raspelière, il y faisait figure de chapelain, d'abbé du répertoire, et quelquefois, quand Morel avait 48 heures de permission, y couchait 2 nuits de suite. Madame Verdurin leur donnait alors 2 chambres communicantes et, pour les mettre à l'aise, disait « Si vous avez envie de faire de la musique, ne vous gênez pas. Les murs sont comme ceux d'une forteresse. Vous n'avez personne à votre étage. Et mon mari a un sommeil de plomb. » Ces jours-là, M. de Charlus relayait la princesse en allant chercher les nouveaux à la gare. Excusez Madame Verdurin de ne pas être venue à cause d'un état de santé qu'il décrivait si bien que les invités entraient avec une figure de circonstance, et poussait un cri d'étonnement en trouvant la patronne, alerte et debout, en robe à demi décolletée. Car M. de Charlus était momentanément devenu, pour Madame Verdurin, le fidèle des fidèles, une seconde princesse Chcherbatov. De sa situation mondaine, elle était beaucoup moins sûre que de celle de la princesse, se figurant que, si celle-ci ne voulait voir que le petit noyau, c'était par mépris des autres et prédilection pour lui. Comme cette feinte était justement le propre des Verdurin, lesquels traitaient d'ennuyeux tous ceux qu'ils ne pouvaient fréquenter, il est incroyable que la patronne pût croire la princesse une âme d'acier détestant le chic. Mais elle n'en démordait pas et était persuadée que, pour la grande dame aussi, c'était sincèrement et par goût d'intellectualité qu'elle ne fréquentait pas les ennuyeux. Le nombre de ceux-ci diminuait, du reste, à l'égard des Verdurin. La vie de bain de mer ôtait à une présentation les conséquences pour l'avenir qu'on eût pu redouter à Paris. Des hommes brillants venus à Balbec sans leurs femmes, ce qui facilitait tout, à la Raspelière faisait des avances et d'ennuyeux devenait exquis. Ce fut le cas pour le prince de Guermantes, que l'absence de la princesse n'aurait pourtant pas décidé à aller, en garçon, chez les Vers du Rhin, si l'aimant du dreyfusisme n'eût été si puissant qu'il lui fit monter d'un seul trait les pentes qui mènent à la Raspelière. Malheureusement, un jour où la patronne était sortie. Madame Verdurin, du reste, n'était pas certaine que lui et monsieur de Charlus fussent du même monde. Le baron avait bien dit que le duc de Guermantes était son frère, mais c'était peut-être le mensonge d'un aventurier. Si élégant se fût-il montré, si aimable, si fidèle envers les Verdurin, la patronne hésitait presque à l'inviter avec le prince de Guermantes. Elle consulta Sky et Brichot. « Le baron et le prince de Guermantes, est-ce que ça marche ?»«
Mon Dieu, madame, pour l'un des deux, je crois pouvoir le dire. »«
Mais l'un des deux, qu'est-ce que ça peut me faire ?» avait repris madame Verdurin irritée. « Je vous demande s'ils marchent ensemble. »
« Ah, madame, voilà des choses qui sont bien difficiles à savoir. »
Madame Verdurin n'y mettait aucune malice. Elle était certaine des mœurs du baron. Mais quand elle s'exprimait ainsi, elle n'y pensait nullement, mais seulement à savoir si on pouvait inviter ensemble le prince et monsieur de Charlus, si cela corderait. Elle ne mettait aucune intention malveillante dans l'emploi de ces expressions toutes faites, et que les petits clans artistiques favorisent. Pour se parer de monsieur de Guermantes, elle voulait l'emmener, l'après-midi qui suivrait le déjeuner, à une fête de charité et où des marins de la côte figureraient un appareillage. Mais n'ayant pas le temps de s'occuper de tout, elle délégua ses fonctions au fidèle des fidèles, au baron. « Vous comprenez, il ne faut pas qu'ils restent immobiles comme des moules. Il faut qu'ils aillent, qu'ils viennent, qu'on voie le branle-bas, je ne sais pas le nom de tout ça. Mais vous, qui allez souvent au port de Balbec-Plage, vous pourriez bien faire une répétition sans vous fatiguer. Vous devez vous y entendre mieux que moi, monsieur de Charlus, à faire marcher des petits marins. Mais après tout, nous nous donnons bien du mal pour monsieur de Guermantes. C'est peut-être un imbécile du jockey. »
Oh mon Dieu, je dis du mal du jockey, et il me semble me rappeler que vous en êtes.
Eh, baron, vous ne me répondez pas. Est-ce que vous en êtes? Vous ne voulez pas sortir avec nous? Tenez, voici un livre que j'ai reçu. Je pense qu'il vous intéressera. C'est du Rougeon. Le titre est joli. Parmi les hommes.
Pour ma part, j'étais d'autant plus heureux que monsieur de Charlus fût assez souvent substitué à la princesse Cherbatov, que j'étais très mal avec celle-ci, pour une raison à la fois insignifiante et profonde. Un jour que j'étais dans le petit train, comblant de mes prévenances, comme toujours, la princesse Cherbatov, j'y vis monter madame de Villeparisis. Elle était en effet venue passer quelques semaines chez la princesse de Luxembourg, mais, enchaînée à ce besoin quotidien de voir Albertine, je n'avais jamais répondu aux invitations multipliées de la marquise et de son hôtesse royale. J'eus du remords en voyant l'amie de ma grand-mère et, par pur devoir, sans quitter la princesse Cherbatov, je causai assez longtemps avec elle. J'ignorais du reste absolument que madame de Villeparisis savait très bien qui était ma voisine, mais ne voulait pas la connaître. À la station suivante, madame de Villeparisis quitta le wagon. Je me reprochais même de ne pas l'avoir aidée à descendre. J'allais me rasseoir à côté de la princesse. Mais on eût dit, cataclysme fréquent chez les personnes dont la situation est peu solide et qui craignent qu'on ait entendu parler d'elles en mal, qu'on les méprise, qu'un changement à vue s'était opéré. Plongée dans sa revue des deux mondes, madame Cherbatov répondit à peine du bout des lèvres à mes questions et finit par me dire que je lui donnais la migraine. Je ne comprenais rien à mon crime. Quand je dis au revoir à la princesse, le sourire habituel n'éclaira pas son visage.
un salut sec, abaissa son menton. Elle ne me tendit même pas la main et ne m'a jamais reparlé depuis. Mais elle dut parler, je ne sais pas pour dire quoi, au verre à Durin, car dès que je demandais à ceux-ci si je ne ferais pas bien de faire une politesse à la princesse Chcherbatov, tous en cœur se précipitaient. « Non, 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 surtout pas, elle n'aime pas les amabilités. » On ne le faisait pas pour me brouiller avec elle, mais elle avait réussi à faire croire qu'elle était insensible aux prévenances. Une âme inaccessible aux vanités de ce monde. Il faut avoir vu l'homme politique qui passe pour le plus entier, le plus intransigeant, le plus inapprochable depuis qu'il est au pouvoir. Il faut l'avoir vu au temps de sa disgrâce, mendier timidement, avec un sourire brillant d'amoureux, le salut hautain d'un journaliste quelconque. Il faut avoir vu le redressement de Cottard, que ces nouveaux malades prenaient pour une barre de fer, et savoir de quels dépits amoureux, de quels échecs de snobisme était fait l'apparente hauteur, l'anti-snobisme universellement admis de la princesse Chcherbatov. Pour comprendre que dans l'humanité, la règle, qui comporte des exceptions naturellement, est que les durs sont des faibles dont on n'a pas voulu, et que les forts, se souciant peu qu'on veuille ou non d'eux, ont seule cette douceur que le vulgaire prend pour de la faiblesse. Au reste, je ne dois pas juger sévèrement la princesse Chcherbatov. Son cas est si fréquent. Un jour, à l'enterrement d'un guermante, un homme remarquable, placé à côté de moi, me montra un monsieur élancé et pourvu d'une jolie figure. « De tous les guermantes, me dit mon voisin, celui-là est le plus inouï, le plus singulier. C'est le frère du duc. » Je lui répondis imprudemment qu'il se trompait, que ce monsieur, sans parenté aucune avec les guermantes, s'appelait Fournier-Sarlovèze. L'homme remarquable me tourna le dos et ne m'a plus jamais salué depuis. Un grand musicien, membre de l'Institut, haut dignitaire officiel et qui connaissait Ski, passa par à Rambouville, où il avait une nièce, et vint à un mercredi des Verdurin. Monsieur de Charlus fut particulièrement aimable avec lui, à la demande de Morel. Et surtout pour qu'au retour à Paris, l'académicien lui permit d'assister à différentes séances privées, répétitions, etc., où jouait le violoniste. L'académicien flatté, et d'ailleurs homme charmant, promit et tint sa promesse. Le baron fut très touché de toutes les amabilités que ce personnage, d'ailleurs en ce qui le concernait, aimant uniquement et profondément les femmes, eut pour lui, de toutes les facilités qu'il lui procura pour voir Morel dans les lieux officiels où les profanes n'entrent pas, de toutes les occasions données par le célèbre artiste aux jeunes virtuoses de se produire, de se faire connaître, en le désignant de préférence à d'autres, à talent égal, pour des auditions qui devaient avoir un retentissement particulier. Mais monsieur de Charlus ne se doutait pas qu'il en devait au maître d'autant plus de reconnaissance que celui-ci, doublement méritant, ou, si l'on aime mieux, deux fois coupable, n'ignorait rien des relations du violoniste et de son noble protecteur. Il les favorisa, certes sans sympathie pour elle, ne pouvant comprendre d'autre amour que celui de la femme, qui avait inspiré toute sa musique. Mais par indifférence morale, complaisance et serviabilité professionnelle, amabilité mondaine, snobisme. Quant à des doutes sur le caractère de ses relations, il en avait si peu que, dès le premier dîner à la Raspelière, il avait demandé à Ski, en parlant de M. de Charlus et de Morel, comme il eût fait d'un homme et de sa maîtresse. « Est-ce qu'il y a longtemps qu'ils sont ensemble ?» Mais trop homme du monde pour en laisser rien voir aux intéressés, prêt, si parmi les camarades de Morel il s'était produit quelque commérage, à les réprimer et à rassurer Morel en lui disant paternellement « On dit cela de tout le monde aujourd'hui. »
Il ne cessa de combler le baron de gentillesse, que celui-ci trouva charmante, mais naturelle, incapable de supposer, chez l'illustre maître, tant de vices ou tant de vertus. Car les mots qu'on disait en l'absence de M. de Charlus, les « à peu près » sur Morel, personne n'avait l'âme assez basse pour les lui répéter. Et pourtant, cette simple situation suffit à montrer que même cette chose universellement décriée, qui ne trouverait nulle part un défenseur, le potin, lui aussi, soit qu'il ait pour objet nous-mêmes et nous devienne ainsi particulièrement désagréable, soit qu'il nous apprenne sur un tiers quelque chose que nous ignorions, a sa valeur psychologique. Il empêche l'esprit de s'endormir sur la vue factice qu'il a de ce qu'il croit les choses, et qui n'est que leur apparence. Il retourne celle-ci avec la dextérité magique d'un philosophe idéaliste, et nous présente rapidement un coin insoupçonné du revers de l'étoffe. Monsieur de Charlus eût-il pu imaginer ces mots dits par certaines tendres parentes ? Comment veux-tu que Mémé soit amoureux de moi ? Tu oublies donc que je suis une femme ! Et pourtant, elle avait un attachement véritable, profond pour M. de Charlus. Comment alors s'étonner que, pour les vers du Rhin, sur l'affection et la bonté desquels il n'avait aucun droit de compter, les propos qu'il disait loin de lui, et ce ne furent pas seulement, on le verra, des propos, fussent si différents de ce qu'il les imaginait être, c'est-à-dire du simple reflet de ce qu'il entendait quand il était là. Cela seul ornait d'inscriptions affectueuses le petit pavillon idéal où M. de Charlus venait parfois rêver, seul, quand il introduisait un instant son imagination dans l'idée que les Verdurin avaient de lui. L'atmosphère y était si sympathique, si cordiale, le repos si réconfortant, que quand M. de Charlus, avant de s'endormir, était venu s'y délasser un instant de ses soucis, il n'en sortait jamais sans un sourire. Mais pour chacun de nous, ce genre de pavillon est double. En face de celui que nous croyons être l'unique, il y a l'autre, qui nous est habituellement invisible, le vrai, symétrique avec celui que nous connaissons, mais bien différent, et dont l'ornementation, où nous ne reconnaîtrions rien de ce que nous nous attendions à voir, nous épouvanterait, comme fait avec les symboles odieux d'une hostilité insoupçonnée. Quelle stupeur pour M. de Charlus, s'il avait pénétré dans un de ces pavillons adverses, grâce à quelque potin, comme par un de ces escaliers de service, où des graffitis obscènes sont charbonnés à la porte des appartements, par des fournisseurs mécontents ou des domestiques renvoyés. Mais, tout autant que nous sommes privés de ce sens de l'orientation dont sont doués certains oiseaux, nous manquons du sens de la visibilité, comme nous manquons de celui des distances. Nous imaginons toute proche l'attention intéressée des gens, qui, au contraire, ne pensent jamais à nous, et ne soupçonnant pas que nous sommes, pendant ce temps-là, pour d'autres leur seul souci. Ainsi, M. de Charlus vivait dupé, comme le poisson qui croit que l'eau où il nage s'étend au-delà du verre de son aquarium, qui lui en présente le reflet, tandis qu'il ne voit pas à côté de lui, dans l'ombre, le promeneur amusé qui suit ses ébats, ou le pisciculteur tout-puissant, qui, au moment imprévu et fatal, différé en ce moment à l'égard du baron, pour qui le pisciculteur à Paris sera Madame Verdurin, le tirera sans pitié du milieu où il aimait vivre pour le rejeter dans un autre. Au surplus, les peuples, en tant qu'ils ne sont que des collections d'individus, peuvent offrir des exemples plus vastes, mais identiques en chacune de leurs parties, de cette cécité profonde, obstinée et déconcertante. Jusqu'ici, si elle était cause que M. de Charlus tenait, dans le petit clan, des propos d'une habileté inutile ou d'une audace qui faisait sourire en cachette,
Elle n'avait pas encore eu pour lui, ni ne devrait avoir, à Balbec, de graves inconvénients. Un peu d'albumine, de sucre, d'arythmie cardiaque n'empêche pas la vie de continuer normale pour celui qui ne s'en aperçoit même pas, alors que seul le médecin y voit la prophétie de catastrophe. Actuellement, le goût, platonique ou non, de M. de Charlus pour Morel poussait seulement le baron à dire volontiers, en l'absence de Morel, qu'il le trouvait très beau, pensant que cela serait entendu en toute innocence, et agissant en cela comme un homme fin, qui, appelé à déposer devant un tribunal, ne craindra pas d'entrer dans des détails qui semblent en apparence désavantageux pour lui, mais qui, à cause de cela même, ont plus de naturel et moins de vulgarité que les protestations conventionnelles d'un accusé de théâtre. Avec la même liberté, toujours, entre Doncières-Ouest et Saint-Martin-du-Chêne, ou le contraire au retour, M. de Charlus parlait volontiers de gens qui ont, paraît-il, des mœurs très étranges, et ajoutait même « Après tout, je dis étrange, je ne sais pas pourquoi, car cela n'a rien de si étrange. » Pour se montrer à soi-même combien il était à l'aise avec son public. Et il l'était en effet, à condition que ce fût lui qui eût l'initiative des opérations, et qu'il sût la galerie muette et souriante, désarmée par la crédulité ou la bonne éducation. Quand M. de Charlus ne parlait pas de son admiration pour la beauté de Morel, comme si elle n'eût eu aucun rapport avec un goût, appelé vice, il traitait de ce vice, mais comme s'il n'avait été nullement le sien. Parfois même, il n'hésitait pas à l'appeler par son nom. Comme, après avoir regardé la belle reliure de son Balzac, je lui demandais ce qu'il préférait dans la comédie humaine, il me répondit, dirigeant sa pensée vers une idée fixe, « Tout l'un ou tout l'autre, les petites miniatures, comme le curé de Tours et la femme abandonnée, ou les grandes fresques, comme la série des Illusions perdues. Comment, vous ne connaissez pas les Illusions perdues ? C'est si beau, le moment où Carlos Herrera demande le nom du château devant lequel passe sa calèche. C'est Rastignac, la demeure du jeune homme qu'il a aimé autrefois. Et l'abbé alors de tomber dans une rêverie que Swann appelait, ce qui était bien spirituel, la tristesse d'Olympio, de la pédérastie. Et la mort de Lucien. Je ne me rappelle plus quel homme de goût avait eu cette réponse, à qui lui demandait quel événement l'avait le plus affligé dans sa vie. La mort de Lucien de Rubempré, dans Splendeurs et misères. Je sais que Balzac se porte beaucoup cette année, comme l'an passé le pessimisme, interrompit Brichot. Mais, au risque de contrister les âmes en mal de déférence balzacienne, sans prétendre, Dieu me donne, au rôle de gendarme, de lettre et dresser procès-verbal pour faute de grammaire, j'avoue que le copieux improvisateur, dont vous me semblez surfaire singulièrement les élucubrations effarantes, m'a toujours paru un scribe insuffisamment méticuleux. J'ai lu ces illusions perdues dont vous nous parlez, baron, en me torturant pour atteindre à une ferveur d'initié. Et je confesse, en toute simplicité d'âme, que ces romans feuilletons rédigés en pathos, en galimatias double et triple, Esther heureuse, où mènent les mauvais chemins, à combien l'amour revient au vieillard, m'ont toujours fait l'effet des mystères de Rocambole, promus par inexplicable faveur à la situation précaire de chef-d'œuvre. Vous dites cela parce que vous ne connaissez pas la vie, dit le baron doublement agacé, car il sentait que Brichot ne comprendrait ni ses raisons d'artiste, ni les autres. J'entends bien, répondit Brichot, que pour parler comme maître François Rabelais, vous voulez dire que je suis moult sorbonagre, sorbonicole et sorboniforme. Pourtant, tout autant que les camarades, j'aime qu'un livre donne l'impression de la sincérité et de la vie.
Je ne suis pas de ces clercs. »
Le quart d'heure de Rabelais ?
Interrompit le docteur Cottard avec un air non plus de doute, mais de spirituelle assurance.
Qui font vœu de littérature en suivant la règle de l'abbaye au bois dans l'obédience de monsieur le vicomte de Chateaubriand, grand maître du chiquet, selon la règle stricte des humanistes. Monsieur le vicomte de Chateaubriand.
Chateaubriand aux pommes ? Interrompit le docteur Cottard.
C'est lui le patron de la confrérie, continua Brichot, sans relever la plaisanterie du docteur,
lequel, en revanche, alarmé par la phrase de l'universitaire, regarda M. de Charlus avec inquiétude. Brichot avait semblé manquer de tact à Cottard, duquel le calembour avait amené un fin sourire sur les lèvres de la princesse Cherbatov. Avec le professeur, l'ironie mordante du parfait sceptique ne perd jamais ses droits, dit-elle par amabilité et pour montrer que le mot du médecin n'avait pas passé inaperçu pour elle.
Le sage est forcément sceptique, répondit le docteur.
Que sais-je ?
Disait Socrate.
C'est très juste, l'excès en tout est un défaut.
Mais je reste bleu quand je pense que cela a suffi à faire durer le nom de Socrate jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'il y a dans cette philosophie ? Peu de choses, en somme. Quand on pense que Charcot et d'autres ont fait des travaux mille fois plus remarquables et qui s'appuient, au moins sur quelque chose, sur la suppression du réflexe pupillaire comme syndrome de la paralysie générale, et qu'ils sont presque oubliés. En somme, Socrate, ce n'est pas extraordinaire. Ce sont des gens qui n'avaient rien à faire, qui passaient toute leur journée à se promener, à discutailler. C'est comme Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres, c'est très joli.
Mon ami, pria Madame Cottard.
Naturellement, ma femme proteste. Ce sont toutes des névrosées.
Mais, mon petit docteur, je ne suis pas névrosée, murmura Madame Cottard.
Comment elle n'est pas névrosée ? Quand son fils est malade, elle présente des phénomènes d'insomnie. Mais enfin, je reconnais que Socrate et le reste, c'est nécessaire pour une culture supérieure, pour avoir des talents d'exposition. Je cite toujours à mes élèves pour le premier cours. Le père Bouchard qui l'assume en a félicité.
Je ne suis pas détenant de la forme pour la forme. Pas plus que je ne thésauriserai en poésie la rime millionnaire, reprit Brichot.
Mais tout de même, la comédie humaine, bien peu humaine, est par trop le contraire de ses œuvres, où l'art excède le fond, comme dit cette bonne rosse d'Ovide. Et il est permis de préférer un sentier à mi-côte, qui mène à la cure de Meudon ou à l'ermitage de Ferney, à égale distance de la vallée aux loups, où René remplissait superbement les devoirs d'un pontificat sans mansuétude, et les Jardies, où Honoré de Balzac, harcelé par les records, ne s'arrêtait pas de cacographier pour une Polonaise, en apôtre zélé du charabia.
Chateaubriand est beaucoup plus vivant que vous ne dites, et Balzac est tout de même un grand écrivain, répondit M. de Charlus, encore trop imprégné du goût de Swann pour ne pas être irrité par Brichot. Et Balzac a connu jusqu'à ces passions que tout le monde ignore, ou n'étudie que pour les flétrir. Sans reparler des immortelles illusions perdues, Sarrasine, la fille aux yeux d'or, une passion dans le désert, même l'assez énigmatique fausse maîtresse, viennent à l'appui de mon dire. Quand je parlais de ce côté hors de nature de Balzac à Swann, il me disait « Vous êtes du même avis que Taine. » « Je n'avais pas l'honneur de connaître M. Taine, » ajouta M. de Charlus, avec cette irritante habitude du « monsieur » inutile qu'ont les gens du monde, comme s'ils croyaient, en taxant de « monsieur » un grand écrivain, lui décerner un honneur, peut-être garder les distances et bien faire savoir qu'il ne le connaissait pas. Je ne connaissais pas M. Taine, mais je me tenais pour fort honoré d'être du même avis que lui. D'ailleurs,
Malgré ses habitudes mondaines ridicules, M. de Charlus était très intelligent. Et il est probable que si quelque mariage ancien avait noué une parenté entre sa famille et celle de Balzac, il eût ressenti, non moins que Balzac d'ailleurs, une satisfaction dont il n'eût pu cependant s'empêcher de se targuer comme d'une marque de condescendance admirable. Parfois, à la station qui suivait Saint-Martin-du-Chêne, des jeunes gens montaient dans le train. M. de Charlus ne pouvait pas s'empêcher de les regarder. Mais, comme il abrégeait et dissimulait l'attention qu'il leur prêtait, elle prenait l'air de cacher un secret, plus particulier même que le véritable. On aurait dit qu'il les connaissait, le laissait malgré lui paraître, après avoir accepté son sacrifice, avant de se retourner vers nous, comme font ces enfants à qui, à la suite d'une brouille entre parents, on a défendu de dire bonjour à des camarades, mais qui, lorsqu'ils les rencontrent, ne peuvent se priver de lever la tête avant de retomber sous la férule de leur précepteur. Au mot tiré du grec dont M. de Charlus, parlant de Balzac, avait fait suivre l'allusion à la tristesse d'Olympio dans Splendeurs et misères, Sky, Brichot et Cottard s'étaient regardés avec un sourire peut-être moins ironique qu'empreint de la satisfaction qu'auraient des dîneurs qui réussiraient à faire parler Dreyfus de sa propre affaire ou l'impératrice de son règne. On comptait bien le pousser un peu sur ce sujet, mais c'était déjà Doncières où Morel nous rejoignait. Devant lui, M. de Charlus surveillait soigneusement sa conversation. Et quand Sky voulut le ramener à l'amour de Carlos Herrera pour Lucien de Rubempré, le baron prit l'air contrarié, mystérieux, et finalement, voyant qu'on ne l'écoutait pas, sévère et justicier d'un père qui entendrait dire des indécences devant sa fille. Sky, ayant mis quelque entêtement à poursuivre, M. de Charlus, les yeux hors de la tête, élevant la voix, dit d'un ton significatif, en montrant Albertine, qui pourtant ne pouvait nous entendre, occupée à causer avec Madame Cottard et la princesse Cherbatov, et sur le ton à double sens de quelqu'un qui veut donner une leçon à des gens mal élevés. « Je crois qu'il serait temps de parler de choses qui puissent intéresser cette jeune fille. » Mais je compris bien que, pour lui, la jeune fille était non pas Albertine, mais Morel. Il témoigna du reste, plus tard, de l'exactitude de mon interprétation par les expressions dont il se servit quand il demanda qu'on n'eût plus de ces conversations devant Morel. « Vous savez, me dit-il, en parlant du violoniste, qu'il n'est pas du tout ce que vous pourriez croire. C'est un petit très honnête qui est toujours resté très sage, très sérieux. » Et on sentait à ces mots que M. de Charlus considérait l'inversion sexuelle comme un danger aussi menaçant pour les jeunes gens que la prostitution pour les femmes. Et que s'il se servait pour Morel de l'épithète de « sérieux », c'était dans le sens qu'elle prend appliqué à une petite ouvrière. Alors Brichot, pour changer la conversation, me demanda si je comptais rester encore longtemps à Incarville. J'avais eu beau lui faire observer plusieurs fois que j'habitais non pas Incarville, mais Balbec, il retombait toujours dans sa faute, car c'est sous le nom d'Incarville ou de Balbec-Incarville qu'il désignait cette partie du littoral. Il y a ainsi des gens qui parlent des mêmes choses que nous en les appelant d'un nom un peu différent. Une certaine dame du faubourg Saint-Germain me demandait toujours, quand elle voulait parler de la duchesse de Guermantes, s'il y avait longtemps que je n'avais vu Zénaïde ou Oriane Zénaïde, ce qui fait qu'au premier moment je ne comprenais pas. Probablement. Il y avait eu un temps où une parente de Madame de Guermantes, s'appelant Oriane, on l'appelait, elle, pour éviter les confusions, Oriane Zénaïde. Peut-être aussi y avait-il eu d'abord une gare seulement à Incarville, et allait-on de là en voiture à Balbec. « De quoi parliez-vous donc ?» dit Albertine, étonnée du ton solennel de père de famille que venait d'usurper M. de Charlus.
de Balzac,
se hâta de répondre le baron. Et vous avez justement ce soir la toilette de la princesse de Cadignan. Pas la première, celle du dîner, mais la seconde.
Cette rencontre tenait à ce que, pour choisir des toilettes à Albertine, je m'inspirais du goût qu'elle s'était formé grâce à Elstir, lequel appréciait beaucoup une sobriété qu'on eût pu appeler britannique, s'il ne s'y était allié plus de douceur, de mollesse française. Le plus souvent, les robes qu'il préférait offraient au regard une harmonieuse combinaison de couleurs grises, comme celle de Diane de Cadignan. Il n'y avait guère que M. de Charlus pour savoir apprécier à leur véritable valeur les toilettes d'Albertine. Tout de suite, ses yeux découvraient ce qui en faisait la rareté, le prix. Il n'aurait jamais dit le nom d'une étoffe pour une autre, et reconnaissait le faiseur. Seulement, il aimait mieux, pour les femmes, un peu plus d'éclat et de couleur que n'en tolérait Elstir. Aussi, ce soir-là, me lança-t-elle un regard moitié souriant, moitié inquiet, en courbant son petit nez rose de chatte. En effet, croisant sur sa jupe de crêpe de chêne gris, sa jaquette de cheviotte grise, laissait croire qu'Albertine était tout en gris. Mais me faisant signe de l'aider, parce que ses manches bouffantes avaient besoin d'être aplaties ou relevées, pour rentrer ou retirer sa jaquette, elle ôta celle-ci. Et comme ses manches étaient d'un écossais très doux, rose, bleu pâle, verdâtre, gorge de pigeon, ce fut comme si dans un ciel gris s'était formé un arc-en-ciel. Et elle se demandait si cela allait plaire à Monsieur de Charlus. « Ah ! » s'écria celui-ci ravi. « Voilà un rayon, un prisme de couleur. Je vous fais tous mes compliments. »« Mais monsieur seul en a mérité, » répondit gentiment Albertine en me désignant, car elle aimait montrer ce qui lui venait de moi. « Il n'y a que les femmes qui ne savent pas s'habiller qui craignent la couleur, » reprit monsieur de Charlus. « On peut être éclatante sans vulgarité et douce sans fadeur. D'ailleurs, vous n'avez pas les mêmes raisons que madame de Cadignan de vouloir paraître détachée de la vie, car c'était l'idée qu'elle voulait inculquer à d'Arthez par cette toilette grise. » Albertine, qu'intéressait ce muet langage des robes, questionna monsieur de Charlus sur la princesse de Cadignan. « Oh, c'est une nouvelle exquise !» dit le baron d'un ton rêveur. « Je connais le petit jardin où Diane de Cadignan se promena avec monsieur d'Espard. C'est celui d'une de mes cousines. » « Toutes ces questions du jardin de sa cousine, » murmura Brichot à Cottard, « peuvent, de même que sa généalogie, avoir du prix pour cet excellent baron. Mais quel intérêt cela a-t-il pour nous qui n'avons pas le privilège de nous y promener? Ne connaissons pas cette dame et ne possédons pas de titre de noblesse. » Car Brichot ne soupçonnait pas qu'on pût s'intéresser à une robe et à un jardin comme à une œuvre d'art, et que c'est comme dans Balzac que M. de Charlus revoyait les petites allées de madame de Cadignan. Le baron poursuivit. « Mais vous la connaissez ? » me dit-il, en parlant de cette cousine et pour me flatter en s'adressant à moi comme à quelqu'un qui, exilé dans le petit clan, pour M. de Charlus, sinon, était de son monde, du moins allait dans son monde. « En tout cas, vous avez dû la voir chez madame de Villeparisis. » « La marquise de Villeparisis, à qui appartient le château de Beaucreux ?» demanda Brichot d'un air captivé. « Oui, vous la connaissez ?» demanda sèchement M. de Charlus. « Nullement, » répondit Brichot. « Mais notre collègue Norpois passe tous les ans une partie de ses vacances à Beaucreux. J'ai eu l'occasion de lui écrire, là. » Je dis à Morel, pensant l'intéresser, que M. de Norpois était ami de mon père. Mais pas un mouvement de son visage ne témoigna qu'il eût entendu. Tant il tenait mes parents pour gens de peu, et n'approchant pas de bien loin de ce qu'avait été mon grand-oncle, chez qui son père avait été valet de chambre. Et qui, du reste, contrairement au reste de la famille, aimant assez faire des embarras, avait laissé un souvenir ébloui à ses domestiques. Et il paraît que Madame de Villeparisis est une femme supérieure, mais je n'ai jamais été admis à en juger par moi-même, non plus du reste que mes collègues, car Norpois, qui est d'ailleurs plein de courtoisie et d'affabilité à l'Institut, n'a présenté aucun de nous à la marquise. Je ne sais de reçu par elle que notre ami Thureau d'Angin, qui avait avec elle d'anciennes relations de famille, et aussi Gaston Boissier, qu'elle a désiré connaître à la suite d'une étude qui l'intéressait tout particulièrement. Il y a dîné une fois, et est revenu sous le charme. Encore Madame Boissier n'a-t-elle pas été invitée. À ces noms, Morel sourit d'attendrissement. « Ah, Thureau d'Angin !» me dit-il d'un air aussi intéressé que celui qu'il avait montré en entendant parler du marquis de Norpois, et de mon père était resté indifférent. « Thureau d'Angin, c'est une paire d'amis avec votre oncle. Quand une dame voulait une place de centre pour une réception à l'académie, votre oncle disait « J'écrirai à Thureau d'Angin ». Et naturellement, la place était aussitôt envoyée, car vous comprenez bien que M. Thureau d'Angin ne se serait pas risqué de rien refuser à votre oncle, qu'il aurait repincé au tournant. Cela m'amuse aussi d'entendre le nom de Boissier, car c'était là que votre grand-oncle faisait faire toutes ses emplettes pour les dames au moment du jour de l'an. Je le sais, car je connais la personne qui était chargée de la commission. Il faisait plus que la connaître, c'était son père. Certaines de ces allusions affectueuses de Morel à la mémoire de mon oncle touchaient à ce que nous ne comptions pas rester toujours dans l'hôtel de Guermantes, où nous n'étions venus loger qu'à cause de ma grand-mère. On parlait quelquefois d'un déménagement possible. Or, pour comprendre les conseils que me donnait à cet égard Charles Morel, il faut savoir qu'autrefois, mon grand-oncle demeurait 40 bis boulevard Malesherbes. Il en était résulté que, dans la famille, comme nous allions beaucoup chez mon oncle Adolphe, jusqu'au jour fatal où je brouillais mes parents avec lui, en racontant l'histoire de la dame en rose, au lieu de dire « chez votre oncle », on disait « au 40 bis ». Des cousines de maman lui disaient le plus naturellement du monde « Ah, dimanche, on ne peut pas vous avoir, vous dînez au 40 bis ». Si j'allais voir une parente, on me recommandait d'aller d'abord au 40 bis, afin que mon oncle ne pût être froissé qu'on eût commencé par lui. Il était propriétaire de la maison et se montrait, à vrai dire, très difficile sur le choix des locataires, qui étaient tous des amis ou le devenaient. Le colonel baron de Vatry venait tous les jours fumer un cigare avec lui pour obtenir plus facilement des réparations. La porte cochère était toujours fermée. Si à une fenêtre, mon oncle apercevait un linge, un tapis, il entrait en fureur et les faisait retirer plus rapidement qu'aujourd'hui les agents de police. Mais enfin, il n'en louait pas moins une partie de la maison, n'ayant pour lui que deux étages et les écuries. Malgré cela, sachant lui faire plaisir en vantant le bon entretien de la maison, on célébrait le confort du petit hôtel, comme si mon oncle en avait été le seul occupant. Et il laissait dire, sans opposer le démenti formel qu'il aurait dû. Le petit hôtel était assurément confortable, mon oncle y introduisant toutes les inventions de l'époque. Mais il n'avait rien d'extraordinaire. Seul mon oncle, tout en disant avec une modestie fausse « mon petit Audi », était persuadé, ou en tout cas avait inculqué à son valet de chambre, à la femme de celui-ci, au cocher, à la cuisinière, l'idée que rien n'existait à Paris, qui, pour le confort, le luxe et l'agrément, fut comparable au petit hôtel. Charles Morel avait grandi dans cette foi. Il y était resté. Aussi, même les jours où il ne causait pas avec moi, si dans le train je parlais à quelqu'un de la possibilité d'un déménagement, aussitôt il me souriait et, clignant de l'œil d'un air entendu, me disait « Ah, ce qu'il vous faudrait, c'est quelque chose dans le genre du 40 bis, c'est là que vous seriez bien. » On on peut dire que votre oncle s'y entendait. Je suis bien sûr que dans tout Paris, il n'existe rien qui vaille le 40 bis. »
À l'air mélancolique qu'avait pris, en parlant de la princesse de Cadignan, monsieur de Charlus, j'avais bien senti que cette nouvelle ne le faisait pas penser qu'au petit jardin d'une cousine assez indifférente. Il tomba dans une songerie profonde, et comme se parlant à soi-même, « Les secrets de la princesse de Cadignan, » s'écria-t-il. « Quel chef-d'œuvre ! Comme c'est profond, comme c'est douloureux, cette mauvaise réputation de Diane qui craint tant que l'homme qu'elle aime ne la prenne. Quelle vérité éternelle et plus générale que cela n'en a l'air ! Comme cela va loin !»
Monsieur de Charlus prononça ces mots avec une tristesse qu'on sentait pourtant qu'il ne trouvait pas sans charme. Certes, monsieur de Charlus, ne sachant pas au juste dans quelle mesure ses mœurs étaient ou non connues, tremblait depuis quelque temps qu'une fois qu'il serait revenu à Paris et qu'on le verrait avec Morel, la famille de celui-ci n'intervînt et qu'ainsi son bonheur fût compromis. Cette éventualité ne lui était probablement apparue jusqu'ici que comme quelque chose de profondément désagréable et pénible. Mais le baron était fort artiste. Et maintenant que depuis un instant il confondait sa situation avec celle décrite par Balzac, il se réfugiait en quelque sorte dans la nouvelle, et à l'infortune qui le menaçait peut-être, et ne laissait pas en tout cas de l'effrayer, il avait cette consolation de trouver, dans sa propre anxiété, ce que Swann et aussi Saint-Loup eussent appelé quelque chose de très balzacien. Cette identification à la princesse de Cadignan avait été rendue facile pour monsieur de Charlus grâce à la transposition mentale qui lui devenait habituelle et dont il avait déjà donné divers exemples. Elle suffisait d'ailleurs pour que le seul remplacement de la femme comme objet aimé par un jeune homme déclenchât aussitôt autour de celui-ci tout le processus de complication sociale qui se développent autour d'une liaison ordinaire. Quand, pour une raison quelconque, on introduit une fois pour toutes un changement dans le calendrier ou dans les horaires, si on fait commencer l'année quelques semaines plus tard, ou si l'on fait sonner minuit un quart d'heure plus tôt, comme les journées auront tout de même 24 heures et les mois 30 jours, tout ce qui découle de la mesure du temps restera identique. Tout peut avoir été changé sans amener aucun trouble, puisque les rapports entre les chiffres sont toujours pareils. Ainsi, des vies qui adoptent l'heure de l'Europe centrale ou les calendriers orientaux. Il semble même que l'amour-propre qu'on a à entretenir une actrice joue un rôle dans cette liaison-ci. Quand, dès le premier jour, monsieur de Charlus s'était enquis de ce qu'était Morel, certes, il avait appris qu'il était d'une humble extraction. Mais une demi-mondaine que nous aimons ne perd pas pour nous de son prestige parce qu'elle est la fille de pauvres gens. En revanche, les musiciens connus, à qui il avait fait écrire, même par intérêt, comme les amis qui, en présentant Swann à Odette, la lui avaient dépeinte comme plus difficile et plus recherchée qu'elle n'était. Par simple banalité d'hommes en vue, surfaisant un débutant, avait répondu au baron « Ah, oh, grand talent, grosse situation, étant donné naturellement qu'il est un jeune, très apprécié des connaisseurs, fera son chemin. » Et par la manie des gens qui ignorent l'inversion à parler de la beauté masculine. « Et puis, il est joli à voir jouer. Il fait mieux que personne dans un concert. » Il a de jolis cheveux, des poses distinguées, la tête est ravissante, et il a l'air d'un violoniste de portrait. Aussi, monsieur de Charlus, surexcité d'ailleurs par Morel, qui ne lui laissait pas ignorer de combien de propositions il était l'objet, était-il flatté de le ramener avec lui, de lui construire un pigeonnier où il revint souvent? Car le reste du temps, il le voulait libre. Ce qui était rendu nécessaire par sa carrière, que monsieur de Charlus désirait, tant d'argent qu'il dut lui donner, que Morel continua.
soit à cause de cette idée très guermante qu'il faut qu'un homme fasse quelque chose, qu'on ne vaut que par son talent, et que la noblesse ou l'argent sont simplement le zéro qui multiplie une valeur. Soit qu'il eut peur, qu'Oisif et toujours auprès de lui, le violoniste s'ennuya. Enfin, il ne voulait pas se priver du plaisir qu'il avait, lors de certains grands concerts, à se dire « Celui qu'on acclame en ce moment sera chez moi cette nuit. » Les gens élégants, quand ils sont amoureux, et de quelque façon qu'ils le soient, mettent leur vanité à ce qui peut détruire les avantages antérieurs où leur vanité eût trouvé satisfaction. Morel, me sentant sans méchanceté pour lui, sincèrement attaché à M. de Charlus, et d'autre part d'une indifférence physique absolue à l'égard de tous les deux, finit par manifester à mon endroit les mêmes sentiments de chaleureuse sympathie qu'une cocotte qui sait qu'on ne la désire pas, et que son amant a en vous un ami sincère qui ne cherchera pas à le brouiller avec elle. Non seulement il me parlait exactement comme autrefois Rachel, la maîtresse de Saint-Loup, mais encore, d'après ce que me répétait M. de Charlus, lui disait de moi, en mon absence, les mêmes choses que Rachel disait de moi à Robert. Enfin, M. de Charlus me disait « Il vous aime beaucoup. Comme Robert, elle t'aime beaucoup. » Et comme le neveu de la part de sa maîtresse, c'est de la part de Morel que l'oncle me demandait souvent de venir dîner avec eux. Il n'y avait d'ailleurs pas moins d'orage entre eux qu'entre Robert et Rachel. Certes, quand Charlie, Morel, était parti, M. de Charlus ne tarissait pas d'éloges sur lui, répétant, ce dont il était flatté, que le violoniste était si bon pour lui. Mais il était pourtant visible que souvent Charlie, même devant tous les fidèles, avait l'air irrité au lieu de paraître toujours heureux et soumis, comme eût souhaité le baron. Cette irritation alla même plus tard, par suite de la faiblesse qui poussait M. de Charlus à pardonner ses inconvenances d'attitude à Morel, jusqu'au point que le violoniste ne cherchait pas à la cacher, ou même l'affectait. J'ai vu M. de Charlus entrant dans un wagon où Charlie était avec 10 militaires de ses amis, accueilli par des haussements d'épaules du musicien, accompagné d'un clignement d'yeux à ses camarades. Ou bien il faisait semblant de dormir, comme quelqu'un que cette arrivée excède d'ennui. Ou il se mettait à tousser, les autres riaient, affectaient pour se moquer le parler mièvre des hommes pareils à M. de Charlus. Attirait dans un coin Charlie, qui finissait par revenir, comme forcé auprès de M. de Charlus, dont le cœur était percé par tous ses traits. Il est inconcevable qu'il les ait supportés. Et ces formes, chaque fois différentes, de souffrance, posaient à nouveau pour M. de Charlus le problème du bonheur, le forçaient non seulement à demander davantage, mais à désirer autre chose, la précédente combinaison se trouvant viciée par un affreux souvenir. Et pourtant, si pénibles que furent ensuite ces scènes, il faut reconnaître que, les premiers temps, le génie de l'homme du peuple de France, dessiné pour Morel, lui faisait revêtir des formes charmantes de simplicité, de franchise apparente, même d'une indépendante fierté qui semblait inspirée par le désintéressement. Cela était faux. Mais l'avantage de l'attitude était d'autant plus en faveur de Morel que, tandis que celui qui aime est toujours forcé de revenir à la charge, d'enchérir, il est au contraire aisé pour celui qui n'aime pas de suivre une ligne droite, inflexible et gracieuse. Elle existait, de par le privilège de la race, dans le visage si ouvert de ce Morel au cœur si fermé. Ce visage paraît de la grâce néo-hellénique qui fleurit aux basiliques champenoises. Malgré sa fierté factice, souvent, apercevant M. de Charlus au moment où il ne s'y attendait pas, il était gêné pour le petit clan, rougissait, baissait les yeux, au ravissement du baron qui voyait là tout un roman. C'était simplement un signe d'irritation et de honte. La première s'exprimait parfois, car, Si calme et énergiquement décente que fût habituellement l'attitude de Morel, elle n'allait pas sans se démentir souvent. Parfois même, à quelques mots que lui disait le baron, éclatait de la part de Morel, sur un ton dur, une réplique insolente dont tout le monde était choqué. Monsieur de Charlus baissait la tête d'un air triste, ne répondait rien, et avec la faculté de croire que rien n'a été remarqué de la froideur, de la dureté de leurs enfants qu'ont les pères idolâtres, n'en continuait pas moins à chanter les louanges du violoniste. Monsieur de Charlus n'était d'ailleurs pas toujours aussi soumis. Mais ses rébellions n'atteignaient généralement pas leur but, surtout parce qu'ayant vécu avec des gens du monde, dans le calcul des réactions qu'ils pouvaient éveiller, ils tenaient compte de la bassesse, sinon originelle, du moins acquise par l'éducation. Or, à la place, il rencontrait chez Morel quelques velléités plébéiennes d'indifférence momentanée. Malheureusement pour M. de Charlus, il ne comprenait pas que, pour Morel, tout cédait devant les questions où le conservatoire et la bonne réputation au conservatoire. Mais ceci, qui devait être plus grave, ne se posait pas pour le moment. Entrait en jeu. Ainsi, par exemple, les bourgeois changent aisément de nom par vanité, les grands seigneurs par avantage. Pour le jeune violoniste, au contraire, le nom de Morel était indissolublement lié à son premier prix de violon, donc impossible à modifier. Monsieur de Charlus aurait voulu que Morel tînt tout de lui, même son nom. S'étant avisé que le prénom de Morel était Charles, qui ressemblait à Charlus, et que la propriété où il se voyait s'appelait les Charmes, il voulut persuader à Morel qu'un joli nom agréable à dire étant la moitié d'une réputation artistique, le virtuose devait sans hésiter prendre le nom de Charmel, allusion discrète au lieu de leur rendez-vous. Morel haussa les épaules. En dernier argument, M. de Charlus eut la malheureuse idée d'ajouter qu'il avait un valet de chambre qui s'appelait ainsi. Il ne fit qu'exciter la furieuse indignation du jeune homme. Il y eut un temps où mes ancêtres étaient fiers du titre de valet de chambre, de maître d'hôtel du roi. Il y en eut un autre, répondit fièrement Morel, où mes ancêtres firent couper le cou au vôtre. Monsieur de Charlus eût été bien étonné s'il eût pu supposer que, à défaut de Charmel, résigné à adopter Morel et à lui donner un des titres de la famille de Guermantes, desquels il disposait, mais que les circonstances, comme on le verra, ne lui permirent pas d'offrir au violoniste, celui-ci eût refusé, en pensant à la réputation artistique attachée à son nom de Morel, et aux commentaires qu'on eût fait à la classe. Tant au-dessus du faubourg Saint-Germain, il plaçait la rue Bergère. Force fut à M. de Charlus de se contenter pour l'instant de faire faire à Morel des bagues symboliques portant l'antique inscription PLVS VLTRA CAROLVS. Certes, devant un adversaire d'une sorte qu'il ne connaissait pas, M. de Charlus aurait dû changer de tactique. Mais qui en est capable? Du reste, si M. de Charlus avait des maladresses, il n'en manquait pas non plus à Morel. Bien plus que la circonstance même qui amena la rupture, ce qui devait, au moins provisoirement, mais ce provisoire se trouva être définitif, le perdre auprès de M. de Charlus, c'est qu'il n'y avait pas en lui que la bassesse qui le faisait être plat devant la dureté et répondre par l'insolence à la douceur. Parallèlement à cette bassesse de nature, il y avait une neurasthénie compliquée de mauvaise éducation qui, s'éveillant dans toutes circonstances où il était en faute ou devenait à charge, faisait qu'au moment même où il aurait eu besoin de toute sa gentillesse, de toute sa douceur, de toute sa gaieté pour désarmer le baron, il devenait sombre, hargneux, cherchait à entamer des discussions où il savait qu'on n'était pas d'accord avec lui,
soutenait son point de vue hostile avec une faiblesse de raison et une violence tranchante qui augmentait cette faiblesse même. Car, bien vite à court d'arguments, il en inventait quand même, dans lesquels se déployait toute l'étendue de son ignorance et de sa bêtise. Elle perçait à peine quand il était aimable et ne cherchait qu'à plaire. Au contraire, on ne voyait plus qu'elle dans ses accès d'humeur sombre, où d'inoffensive, elle devenait haïssable. Alors, M. de Charlus se sentait excédé, ne mettait son espoir que dans un lendemain meilleur, tandis que Morel, oubliant que le baron le faisait vivre fastueusement, avec un sourire ironique de pitié supérieure, et disait « Je n'ai jamais rien accepté de personne. Comme cela, je n'ai personne à qui je doive un seul merci. »